Aujourd'hui, la masterclass d'Angelin Prejlocage avec Mathilde Serrel.
Angelin Prejlocage, bienvenue. Une masterclass, c'est pas un entretien définitif, loin de là, c'est un entretien tout du moins pérenne qui va se glisser dans la grande bibliothèque des savoirs de France Culture. Vous êtes, on peut le rappeler, danseur, chorégraphe. Vous avez créé votre compagnie en décembre 1984. Et depuis, vous avez chorégraphié plus de 50 pièces du solo au ballet, des pièces qui sont marquées le plus souvent par l'intersection des arts. Vous mobilisez la mode, le dessin, le design, la littérature, les arts plastiques, la photographie, les nouvelles écritures technologiques, on peut appeler ça comme ça. Et côté musique, avec vous, le mouvement s'écrit autant sur du Mozart ou du Stravinsky qu'avec un quartet pour hélicoptère de Stockhausen, l'électro-baroque de Nicolas Godin du groupe R, ou le rituel Haka des rugbymen néo-zélandais. Alors, jamais où on vous attend, semble-t-il, jamais où vous vous attendez vous-même. Il y a certaines de vos pièces qui sont devenues des classiques contemporains, qui sont depuis entrées au répertoire de l'Opéra de Paris, comme Le Parc, ou encore Le Songe de Médée. Et vous explorez aussi régulièrement un autre champ d'écriture, c'est la réalisation. On aura le temps d'y revenir. L'œuvre, elle est donc multiforme, et le rythme d'activité franchement soutenu. Plus d'une création par an. Comment vous faites, Angelin Prejlocage?
Comment je fais pour pourquoi
pour créer pour autant créer... de choses et à un tel rythme.
Mais c'est pour moi c'est une question d'existence. Je dirais que c'est vraiment une façon d'exister, créer pour moi. Donc c'est à la fois naturel, à la fois je dirais fluide, c'est-à-dire dans le rythme. C'est un peu comme les saisons. Il y a des temps morts où les choses se régénèrent, et puis il y a à nouveau quelque chose qui pousse, qui veut sortir, etc. Et j'ai vraiment l'impression de vivre et d'exister à ce rythme-là. C'est-à-dire que j'ai besoin. C'est comme une substance presque naturelle qui a besoin de s'exprimer. Et c'est comme ça que je me sens exister. C'est comme ça que j'ai besoin de vivre aussi.
On a parlé des collaborations en ouverture de cette masterclass parce que c'est vrai qu'il y a ce caractère multiforme chez vous qui frappe tout de suite. On peut peut-être rentrer un peu plus en détail de ces collaborations. Pour les arts plastiques, ça va être Fabrice Hibert, Claude Lévesque, entre autres. Vous avez travaillé avec le dessinateur Enki Bilal, la photographe Tran Van Vang, des écrivains comme Pascal Quignard, Laurent Mauvignier, les costumes Azedine Alaïa, à plusieurs reprises, mais aussi Jean-Paul Gaultier. Donc je ne cite pas tout le monde. Je voudrais savoir comment ça se passe. Est-ce que finalement un spectacle, ça naît de l'envie d'une rencontre avec tel ou tel artiste dans sa discipline, ou est-ce que vous avez d'abord l'idée de danse, pour résumer, et vous cherchez avec qui la réaliser ensuite?
Alors cette histoire de name dropping que vous venez de faire, je suis désolé que ça ressemble à ça, mais en même temps...
En bon français, ce serait cette collection de noms.
Voilà, c'est ça. C'est venu d'une première expérience que j'ai eue avec Enki Bilal, c'est-à-dire que on m'a proposé de faire Roméo et Juliette avec le ballet de Lyon, et dans un contexte d'une commande. Et au moment où j'ai commencé à réfléchir à ça, j'ai élaboré mon projet en me basant sur l'inspiration surtout de George Orwell 1984, qui pour moi résonnait vraiment bien, puisqu'il s'agit d'un monde où on empêche les gens de changer de catégorie sociale, et on peut pas être amoureux si on est dans la catégorie des ouvriers de la cité, ou bien si on est dans la catégorie des professeurs. On peut pas changer de classe. Et donc je me disais, c'est peut-être plus intéressant pour Roméo et Juliette, plutôt que ce soit juste une lutte des clans, que ça devienne une lutte des classes, en fait. Et donc, partant de là, j'ai commencé à réfléchir qui pourrait donner un univers visuel à tout ça. Et j'étais totalement fan d'Enki Bilal. Et évidemment, compte tenu de... Quand je pense à des albums comme Partie de chasse, comme La foire aux immortels, il y a vraiment quelque chose qui questionne sans arrêt le totalitarisme dans le travail d'Enki Bilal. Et je me suis dit... Bien que c'était une icône pour moi, je me suis dit, je vais lui écrire, tout simplement. Voilà, j'étais vraiment inconnu à l'époque, et je lui ai écrit une lettre en lui expliquant à peu près ce que je viens de vous dire. Et il a répondu immédiatement et a démarré une collaboration absolument fructueuse et aussi une amitié avec Enki qui perdure encore aujourd'hui. Et c'est de là que j'ai pris cette habitude. Quand j'élabore un projet, dès que j'ai un début de concept ou de vision de quelque chose, si quelqu'un aussi haut placé dans l'échelle des arts correspondait, c'est de prendre un téléphone, d'écrire et de dire voilà, est-ce que vous êtes prêt? Eh bien, je vous assure que la plupart du temps, ça marche très très bien. Les gens vous disent ah ben oui, chouette, essayons, et voilà. Et c'est pourquoi tous ces gens que vous avez cités se sont prêtés très très simplement aux collaborations, qui en fait pour moi sont très importantes parce que c'est une façon en fait de me ressourcer, de me re-questionner moi-même aussi à travers ces collaborations. Je suis toujours différent après que avant. Je suis plus le même à chaque fois. C'est comme si il y avait eu un processus de contamination, quelque chose qui finit par gagner, ou comme un parfum, quand on se frotte à quelqu'un, on garde le parfum de l'autre un peu, et donc c'est des choses qui vous font grandir en fait.
Dans ces collaborations, il y a une articulation aussi avec votre propre écriture chorégraphique. Quand on regarde votre travail, il y a la designeuse Constance Guisset, quand même notamment présente sur la dernière pièce, La Fresque, mais avec qui vous collaborez déjà. Il y a un travail sur les symboles. Gare au rouge, chez Angelin Préjocage, les roses, le foulard rouge, c'est toujours l'annonce de quelque chose d'assez sombre, en fait. Ensuite, il y a une bascule. Et donc j'ai l'impression que quand vous travaillez les autres arts, vous travaillez en correspondance de signaux et pas en superposition. Comment est-ce qu'on fait pour que justement votre écriture chorégraphique s'apprenne avec ce que va proposer le designer, ce que va proposer le scénographe, les costumes, qu'on n'ait pas l'impression d'un empilement en fait?
Bah oui, je crois que la redondance, je crois que c'est la pire des choses hein, dans le champ culturel, peut-être même dans la vie d'ailleurs, mais bon. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est évidemment d'élaborer un langage. En fait, je crois que pour moi, la danse est vraiment un langage. Donc, élaborer ce langage, le développer, inventer une syntaxe, une grammaire, peut-être un style, je ne sais pas. Après, ça, c'est encore une autre question. Et voir comment ça peut entrer en résonance avec les autres éléments dont on vient de parler. En tout cas, c'est toujours la première chose qui me préoccupe. C'est-à-dire que, quand bien même je demande à Enki Bilal ou à Constance Guisset, comme vous l'évoquez, une scénographie, à partir du moment où je suis dans le studio, je m'intéresse à des choses extrêmement matérielles, je dirais presque. C'est la vitesse, le poids, l'énergie, le corps, le mouvement, l'articulation. Enfin, des choses qui sont des questions presque physiques, en termes scientifiques presque. Hein. Et c'est ça qui me passionne. Et c'est aussi de questionner toujours le corps et les limites du corps, un peu à la façon de Spinoza qui demande que peut le corps. C'est une question générale de son questionnement philosophique. Ça veut dire quelle est l'influence du corps sur le monde, comment le corps imprime le monde en fait, et comment nos corps aujourd'hui impriment différemment le monde que les corps peut-être des temps passés, ou etc. Enfin, toutes ces questions sont absolument passionnantes pour un chorégraphe.
Alors, vous citez Spinoza, je sais que vous aimez bien aussi Nietzsche, entre autres, mais vous avez quand même un rapport au-delà de la philosophie avec les textes, avec la littérature, qui est particulier. J'ai parlé tout à l'heure de Pascal Quignard, c'était pour L'Anour, dès 1995. Vous avez fait appel à Éric Reinhart lorsque vous avez inauguré ce pavillon noir qui est architecturé par Rudy Ricciotti, où vous avez installé le ballet Préjocage, c'est à Aix-en-Provence. Il y a eu tout un travail aussi avec Laurent Mauvignier à deux reprises récemment. Vous étiez emparé d'un Jean Genet aussi, vous aviez décidé de monter en solo, ça faisait 30 ans que vous n'aviez pas fait un solo d'ailleurs, c'était pour Le Funambule. Qu'est-ce que vous avez comme rapport avec la littérature, rapport sinon particulier, singulier?
En réalité, il est assez limité, enfin pas limité, mais vous avez évoqué 50 ballets, sur les 50, il y a quoi? Il y a 4 propositions avec la littérature. En revanche, c'est quelque chose qui revient régulièrement, c'est-à-dire que c'est assez bien réparti dans le temps, et c'est quelque chose qui, même quand la littérature n'est pas le sujet direct, ça veut dire s'il n'y a pas, même si on n'entend pas du texte dans les ballets, c'est quand même quelque chose qui nourrit évidemment toujours mes spectacles et mes créations, oui.
Comment ça vous nourrit?
Dès que je m'attelle à un sujet, très rapidement, je commence à lire, à me documenter. En fait, j'ai besoin, par exemple, on me dit souvent combien de temps il vous faut pour créer un ballet. En fait, il y a la gestation et puis il y a la création en elle-même. Je peux créer un ballet en 4 mois, c'est-à-dire au début de la première répétition. En revanche, si j'ai pas travaillé pendant un an avant, si je me suis pas nourri, si je me suis pas chargé, un peu comme une pile, eh bien, je serais pas à même de rendre quelque chose. Parce que je crois qu'il y a une partie, en tout cas dans ma façon d'avancer, qui est très instinctive. C'est-à-dire quand je suis dans le studio, je vous l'ai dit tout à l'heure, les questions qui me préoccupent, c'est très presque élémentaire. Et il y a beaucoup d'instinct. C'est-à-dire que c'est comme si j'oublie. J'accumulais pendant un an des informations, des convictions, des concepts. Et puis, à partir du moment où je travaille avec les danseurs, j'oublie tout. Mais c'est toujours là, finalement. C'est toujours là en filigrane. Et j'ai besoin de ça. Et c'est pourquoi la littérature a une place importante.
Les mythes aussi, une place très importante chez vous, des mythes éternels. Je pense à Centaure, Roméo, Juliette, Blanche-Neige, Les Mille et Une Nuits, pour ne citer qu'eux, avec toujours une vigueur actuelle. Quel rôle ils jouent dans votre travail et comment vous trouvez la forme juste pour les aborder, justement, ces mythes éternels?
Ben, non, mais les mythes, c'est pas nouveau. Beaucoup de gens ont dit que finalement, on avait quoi, 5-6 thèmes qui préoccupaient la littérature, la peinture, l'art en général. Et on tourne autour de ça. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui se. Il y a des c'est comme on dit, les piliers de la sagesse. Ben, il y a les piliers de la dramaturgie qu'on retrouve souvent dans beaucoup d'art. Et c'est des choses qu'il est nécessaire de re-questionner. Parce que ce qui est intéressant, c'est comment aujourd'hui on regarde, je ne sais pas, par exemple, l'infanticide. Voilà,
pour
évoquer Médée, bien sûr. Voilà, c'est comment aujourd'hui on rajoute une vision à tout ça, quoi. Et je pense qu'il y a une sorte de circulation télépathique entre les artistes de plusieurs générations qui se répondent, on le voit dans la peinture, par exemple, si vous prenez Le Déjeuner sur l'herbe, c'est un thème qui circule et que différents peintres re-questionnent et réinventent avec même des citations. C'est-à-dire qu'il y a une vraie communication, des petites pointes où on met un élément et quelque chose qui fait une sorte de trait d'union entre les œuvres. Bah, évidemment, là, je parle du Déjeuner sur l'herbe, mais si on prend des thèmes religieux, c'est encore pire. Enfin, pire. Enfin, c'est encore plus évident.
C'est si on... mon corps, c'était l'une de mes.
Voilà, ou bien prenons l'Annonciation. Si on, avec toutes les annonciations qui existent.
De Frangelico.
Voilà, en 20 siècles, on peut faire une vraie BD, quoi. C'est incroyable. C'est un storyboard qui peut raconter quasiment ce qu'on veut, presque. Enfin, parce que aussi la façon dont les peintres se sont emparés de l'Annonciation, c'est toujours très différent. Marie est toujours dans des situations différentes. Il y en a certaines qui sont très soumises, il y en a d'autres qui sont révoltées, qui ont l'air de dire à l'ange, mais qu'est-ce que tu viens me chercher? J'ai rien demandé. Enfin, et il y a toujours tout
on
ça.
On attend la Marie racaille un peu.
Et donc voilà, ce qui est intéressant, je crois, c'est cette espèce de circulation et de dialogue intemporel, enfin, qui transcende les époques et qui permet aux artistes de communiquer entre eux et de créer une sorte, finalement, d'inconscient collectif, enfin, ou même peut-être de conscient collectif, de ce qu'est la culture, de ce qu'est le savoir, ce qu'est la connaissance, et de ce qu'est l'humanité aussi, peut-être.
On va continuer, justement, avec vous sur les chorégraphies et les projets qui sont, justement, changeants, que ce soit, donc on a parlé des mythes, mais c'est vrai qu'il y a aussi comme une danse, en fait, d'une pièce chorégraphique à l'autre. Vous allez pouvoir être dans quelque chose qui est connecté aux échos de la violence du monde moderne, puis tout d'un coup, quelque chose de très spirituel, adapté d'un conte chinois, si je pense à La Fraise, votre dernière pièce. Il y a un élan comme ça vers des technologies, des explorations de nouveaux médias, et tout d'un coup, un retour au classicisme. Comment est-ce qu'une pièce, elle se construit par rapport à la précédente? Est-ce qu'il y a une forme de contrepoint, de réaction ou de continuité chez vous, Angelin Prejlocage?
Oui, alors je crois qu'il y a vraiment il y a une forme de schizophrénie chez moi parce que j'ai besoin à la fois de... Prenons Empty Moves, qu'on n'a pas encore évoqué, qui est une pièce absolument radicale avec 4 danseurs sans lumière, sans costume. Enfin, sans lumière, je veux dire, on y voit clair, hein, mais il n'y a pas de concept derrière. C'est juste, voilà, on allume la lumière sur la scène et c'est tout. 4 danseurs. Et puis, ce texte de Henry David Thoreau, qui a été découpé en morceaux par John Cage, qu'il dit dans un ordre complètement aléatoire, ce qui fait qu'on comprend absolument rien. Et c'est jouer avec l'enregistrement de cette performance de Cage à Milan et où le public présent en 1977 se met à réagir, à moquer John Cage, à le fustiger, à jouer avec lui, à crier, à chanter, à faire des rythmes, etc. Et il y a une sorte de bande-son qui est à l'origine une archive, en fait, qui devient vraiment une œuvre cagienne. C'est-à-dire que ça excède le statut d'archive pour devenir à part entière une œuvre, Empty Moves, avec John Cage, et puis Blanche-Neige. Voilà. Donc là, on est dans une sorte de grand écart sémantique, presque. Et en même temps, donc c'est parce que je pense souvent à cette phrase de Jean Vilar qui disait « Je suis pour un théâtre populaire, mais exigeant ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire, finalement ? Ça veut dire qu'il y a des thèmes qui réunissent un public assez large, mais est-ce que pour autant on doit donner à ce public exactement ce qu'il cherche, ou est-ce qu'on doit essayer de nourrir avec autre chose ? Et je crois que c'est ça que j'essaye de faire. Si vous voulez, dans la science, il y a la recherche fondamentale, et puis il y a la recherche. Après, il y a tout ce qui en découle, la technologie, etc. Alors on pourrait croire, mais oui, mais la recherche fondamentale, c'est gens qui travaillent sur des équations, des concepts, etc. Ça sert à rien. En vérité, si. Évidemment, tout ça devient à un moment des médicaments, de la technologie, qui a un vrai sens pour les gens, en fait. Dans mon travail, il y a ça aussi. Ça, j'ai besoin de travailler sur la matière chorégraphique pure à certains moments, me questionner sur des fondamentaux, sur une radicalité, pour que ça devienne l'exigence après de projets peut-être plus populaires. Et parce que, en fait, si je prends l'exemple de Blanche-Neige, si on enlève les costumes, le décor, lumière et même le thème, chaque partie chorégraphique a en soi, je dirais, une sorte de légitimité en termes d'écriture, de mouvement, de travail. C'est-à-dire qu'il y a une vraie matière chorégraphique qui se déploie. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'au cœur même de toute symbolique, il y a une autre matière qui se joue, qui se déploie et qui a une vie presque autonome, mais qui, recontextualisée, va donner un sens à ce qui se joue là. Voilà.
Donc, John Cage, Blanche-Neige, un laboratoire, en fait, d'une pièce à l'autre chez vous, Angelin Préjocage. On peut revenir sur votre parcours. Vous avez donc commencé côté études de danse classique. Vous avez fait un passage en tant que batteur et guitariste rock. Mais oui.
Ah, vous êtes bien renseigné.
Et puis, vous allez aller à New York du côté de Merce Cunningham, puis dans les compagnies en France de Quentin Rouillet et Dominique Bagouet, avant de devenir vous-même et très tôt chorégraphe. Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi déjà ce laboratoire en vous, en tout cas cet éclectisme intérieur. Quoi. Vous avez une ponte éclectique, Angelin Préjocage ?
Je ne sais pas, je crois qu'on est... On est tous très multiples, en fait. On a toujours ce truc de vouloir vivre plusieurs vies, non ? Vous aussi, non ?
Ah oui, moi, personnellement, je suis taxidermiste.
Voilà. Mais bon, on a tous vécu ça, c'est-à-dire se dire, et si j'avais pris une autre route à un moment ? Mais vraiment, parfois, c'est au sens littéral. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que si à un moment, on avait tourné à gauche, toute notre vie aurait été différente. Il y a quelque chose de vertigineux dans cette idée-là. Et je crois qu'elle, artistiquement aussi, elle peut se jouer. C'est-à-dire que on a toujours l'idée de se dire, mais pourquoi j'ai choisi la danse et pas la peinture? Et des fois, on essaye de corriger ça. On se dit, je vais y aller un peu, voir. Et puis parfois, on découvre un plaisir, on découvre une sensation qu'on ne connaissait pas et on se dit, peut-être que j'aurais dû faire ça, et puis en fait on se dit non, c'est trop dur. Voilà. Mais en tout cas, l'irruption des possibles est quelque chose qui titille, enfin qui devrait toujours titiller un artiste. En tout cas, moi, elle me taraude un petit peu, quoi.
Et c'est le moment de la question clé de cette masterclass, Angelin Préjocage. Du coup, pourquoi la danse ? Bien sûr, la danse hybride, la danse sous toutes ses formes, on le voit et vous nous le rappelez. Mais pourquoi celle-ci, finalement ?
Alors, c'est vraiment une question qui commence à prendre... dont la réponse commence un petit peu à prendre forme avec l'âge, parce que au début, je ne sais pas très bien. Au début, c'est des choses très anecdotiques. Hein. C'est une photographie de Nourieff trouvée dans un livre qui me fascine, par la beauté intérieure qui se dégage de son visage, quelque chose comme ça, où je me dis... Quel est cet art qui peut rendre quelqu'un aussi beau, etc. Et puis, puis je commence à prendre un premier cours de danse et ça voilà. Et, mais ça, je dirais que ça c'est un peu comme quand on dit aux gens, mais pourquoi vous avez commencé la danse ou la guitare? En fait, c'est une question un peu étrange parce que il y a beaucoup de gens qui commencent la danse ou la guitare, mais c'est ceux qui continuent qu'on devrait interroger et on devrait dire. Pourquoi vous avez continué la danse, en fait hein.
Pourquoi vous avez continué la danse,
voilà,
hein, j'ai l'impression
très bien. Que je... Merci. Voilà. Alors donc c'est ça. Donc c'est
questions.
Ça. C'est dans mon cas, je commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui est lié à la mémoire, au langage et à des origines peut-être modestes. Voilà. C'est-à-dire que je suis issu d'une famille de réfugiés albanais. Mes parents étaient très pauvres, enfin voilà. Et par exemple, à la maison, il y avait très peu de livres, de la musique un peu folklorique, enfin traditionnelle albanaise, et un univers culturel assez, pas désertique, mais qui avait des silences, quoi, en fait. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui, à un moment, a eu besoin d'être comblé par autre chose. Et c'est peut-être ça qui m'a... qui m'a incité à danser, parce qu'il y a toujours cette idée que, je crois que quand on n'a pas grand-chose, on a toujours un corps, finalement. On peut le remarquer, par exemple, en prison. Je dis ça parce qu'on a fait des sensibilisations, des ateliers à la prison de Luynes, et j'ai remarqué qu'il y avait vraiment un désir des détenus de travailler le corps, et on le voit souvent. Ils font des pompes, enfin ils font de l'exercice. C'est comme si le corps était leur dernier territoire, celui qu'on ne leur avait pas enlevé. Et donc on se retrouve dans une cellule avec son corps, voilà. Et du coup on se dit, je vais peut-être cultiver ce jardin-là en fait, ce qui est ce, voilà. Et c'est pour ça je m'éloigne un peu, mais c'est juste pour dire que c'est peut-être ça qui fait que comme j'avais pas grand-chose, j'avais au moins ce corps à la maison qui me permettait peut-être d'imaginer qu'avec cet outil-là, je pourrais exprimer quelque chose. Voilà. Bon, c'est une piste de réflexion, mais c'est pas la seule, je crois.
Mais vous avez aussi un rapport que vous avez gardé avec ce corps. Ça devient donc votre médium d'expression. Vous n'avez pas encore vraiment répondu à la question de pourquoi vous continuez la danse, mais elle va rester en filigrane. Vous dites aussi que c'est important pour vous de danser sa vie. Si on reprend le sous-titre de Paulina, l'adaptation du roman graphique de Bastien Vivès que vous co-réalisez avec Valérie Muller, danser, Paulina, danser sa vie. Il y a aussi cette formule de Nietzsche, hein, je ne pourrais croire en un dieu qui ne saurait danser, qui vous est cher. Donc en quoi pour vous danser sa vie, c'est essentiel?
On a une image de la danse, quand on dit danser sa vie, on croit qu'on va sortir là du studio en dansant, tout ça.
C'est on n'est pas dans La La Land.
Et c'est exactement ce que j'allais dire. Ce que je veux dire, c'est que la danse, c'est quelque chose de beaucoup plus mystérieux. C'est-à-dire qu'on peut voir... D'ailleurs, comme Paulina, par exemple, dans le film, elle descend à un moment dans une sorte de couloir de métro, ou je ne sais quoi. Et là, il y a un SDF qui rampe, en fait, mais qui rampe parce que dans une sorte de nécessité vitale, si vous voulez. Et en fait, elle, à travers son regard, elle décèle une danse, en fait. Donc c'est pas la danse, là, voilà. C'est comment il peut y avoir de la beauté dans le corps vivant, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que le corps humain vivant trouve une sorte de transcendance dans la danse, en fait.
Et comment ça se contamine dans votre travail? C'est-à-dire comment, finalement, la danse va entrer dans la vie et la vie va entrer dans la danse?
Comme je viens de l'évoquer, là, je suis un peu en panne. Non, mais par exemple, si je prenais l'exemple de l'espace, c'est déjà quelque chose d'incroyablement passionnant. Parce que si on demande à quelqu'un, vous avez vu le spectacle, bon, d'accord, vous avez vu les dents, oui, il dansait bien, machin. Mais en fait, on pourrait presque demander, est-ce que vous avez vu l'espace, en fait, pendant le spectacle? Et c'est quelque chose, moi, quand je travaille, qui me préoccupe, mais en quasi-permanence. C'est-à-dire que, évidemment, je travaille la danse, les danseurs, le mouvement, je leur indique les mouvements, on travaille matériellement le corps, mais il y a une autre danse qui se joue à chaque instant, à chaque seconde, c'est l'espace entre les corps, ou bien, quand c'est un seul danseur, l'espace autour du corps. Mais entre les corps, c'est encore plus intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une danse en creux qui participe complètement à la poésie, à la dynamique, à la magie de la danse. qui existe en permanence. Et on peut voir en creux une autre danse qui se joue tout le temps. Et c'est quelque chose qui peut se travailler. C'est pas juste hasardeux comme ça, c'est pas juste qu'on pose les danseurs comme ça. C'est une écriture, c'est-à-dire qu'on peut écrire l'espace avec les corps, en plus d'écrire les mouvements des danseurs. Donc il y a une complexité là qui me passionne et qui m'habite depuis plus de 30 ans que je suis chorégraphe, parce que c'est ça mon vrai territoire. Il y a une idée d'ensemencer l'espace avec les corps des danseurs et de voir comment ça va générer autre chose, quelque chose de voilà qui peut faire sens, qui a une beauté, une émotion et qui peut nous toucher sans même qu'on comprenne pourquoi en fait.
Et justement, dans votre travail de direction de danseur, comme on peut parler de direction d'acteur, je sais que vous aimez bien ce mantra justement, ne montre pas fait. Comment est-ce qu'on passe de l'exécution extrêmement technique et précise au passage d'une émotion? Alors comment ça, vous les amenez là?
Ça, c'est une chose qui m'a fasciné très vite quand j'ai découvert le travail de Merce Cunningham. C'est-à-dire que Cunningham avait cette faculté à questionner les limites du corps telles que les danseurs n'avaient pas le temps de montrer le mouvement ou d'exprimer quelque chose qui serait une sorte de surplus, en fait. C'est-à-dire qu'il fallait déjà juste au moins maîtriser le mouvement, parce que c'était tellement casse-gueule que déjà s'atteler à juste enchaîner ce qui est demandé était déjà un effort surhumain. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espace pour autre chose. Et donc il y a une sorte de beauté qui jaillit là, qui est la beauté de l'être lui-même avant même qu'il ait décidé de rajouter quelque chose de superficiel finalement. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre là, mais...
Si, c'est-à-dire que on avait aussi évoqué ce travail-là dans d'autres masterclass, quand par exemple on pense à Denis Podalydès qui était venu ici. C'est terrible, un acteur qui arrive avec déjà quelque chose de prévu rapport au rôle, et il va falloir d'abord se débarrasser de ça. Mais justement, qu'est-ce que vous dites à vos danseurs?
Et alors c'est pour ça, c'est vrai, que je dis aux danseurs, ne montre pas le mouvement, parce que ça ne m'intéresse pas que tu le montres. Ce qui m'intéresse, c'est de te voir le faire. Et c'est très très différent en réalité. Et de la même manière, par exemple, prenons même quelque chose qui est très... signifiant comme Roméo et Juliette, donc ils sont censés s'aimer, enfin il y a un truc où on pourrait dire ils pourraient jouer qu'ils s'aiment, mais en fait je leur demande pas de jouer qu'ils s'aiment, je leur demande de faire physiquement les choses qui vont générer en eux une émotion, parce que on ne peut pas impunément rapprocher des corps sans qu'il se passe quelque chose émotionnellement chez le danseur. Mais donc, il n'a pas besoin de jouer, il a juste, je veux dire, à laisser résonner en lui les émotions qui viennent de cette, je dirais, alchimie, de cette expérience avec l'autre, physiquement.
Et en même temps, avec énormément de technique, parce que vous les poussez au maximum de leur amplitude. Vous dites, la fragilité ne m'intéresse pas sans puissance.
Ah oui, oui, oui. C'est-à-dire que, je dirais même, bon, la virtuosité, c'est quelque chose qui m'intéresse en soi. Pas comme fin, mais comme moyen, évidemment. Et je crois que la fragilité a une grande beauté quand elle est mise en, je dirais, en perspective avec une puissance. C'est-à-dire que si on voit arriver quelqu'un sur scène qui est en permanence fragile, au bout d'un moment, on dit d'accord, quoi. Voilà. Mais si on voit arriver quelqu'un qui a une puissance, une virtuosité incroyable, en tout cas réelle, et que tout à coup, il y a quelque chose qui s'arrête en lui et qu'il y a une faille qui apparaît, alors là, il y a quelque chose de réellement bouleversant qui se passe. Et c'est quelque chose qui peut aussi se conceptualiser en tant que... C'est-à-dire qu'on peut l'inscrire dans une dramaturgie, ça. Et c'est ça qui est aussi passionnant. Je pense même au théâtre, il y a des metteurs en scène qui le font. C'est-à-dire qu'ils jouent avec la puissance de jeu des acteurs, la puissance vocale, et puis tout à coup une fragilité qui apparaît comme une sorte de faille à l'intérieur de l'être, une blessure profonde qui apparaît, qui se révèle et qui est bouleversante, du coup, oui.
Et dans votre travail d'écriture, justement, de ces gestes, avant de leur proposer à vos danseurs, on a récemment eu accès, finalement, à des images de chorégraphes au travail, de work in progress. Ça se fait de plus en plus dans la danse. Vous, comment viennent les gestes? Est-ce que c'est d'abord sur votre corps que le dessin se fait, ou au contraire sur une feuille de papier? Comment vous les posez, ces gestes?
Alors, les feuilles de papier, ça arrive dans l'avion quand j'ai, je suis un peu à l'étroit dans l'espace. Alors, si j'ai une idée, je griffonne des petites choses pour, comme aide-mémoire. Mais après, effectivement, je cherche. Alors, quand j'étais petit, que je démarrais, que j'étais chorégraphe débutant, je passais beaucoup de temps à préparer les mouvements parce que je voulais avoir réponse, si vous voulez. On a toujours cette peur que de pas être crédible au regard des autres. Alors on veut être impeccable. Alors aussi le danseur dit mais la jambe c'est à quel compte ou ça c'est comment. Alors on dit ben non c'est comme ça. Regarde tu vois hop tac tu vois termine tu vois. Et en fait après quand on a un peu moins peur en fait tout simplement. On prend le risque d'être fragile justement au regard des autres et on commence à laisser les choses je dirais jaillir plus et du coup dans le jaillissement il y a des fulgurances et des beautés qui sont nouvelles et intéressantes. Donc le processus d'évolution de comment je chorégraphie face à mes danseurs a beaucoup évolué avec ça. Et effectivement, ça peut prendre un certain temps. Ça peut être, ça peut passer par des chemins de perdition. Et c'est Olivier Assayas, quand il a fait le film Eldorado, qui est venu filmer pendant un certain temps les répétitions d'une création. Quand il m'a montré le premier montage, j'ai cru qu'il allait vraiment me tuer, en fait, artistiquement. Parce que ça démarrait très, très mal. C'est-à-dire qu'on me voyait ramper au sol dans une sorte de reptation un peu maladroite, cherchant vaguement, bougeant une jambe, etc. Et je me suis
dit, pour l'éternité, il y a un jour.
Et je me suis dit, et là, il est en train de me démolir. Il va montrer à tout le monde à quel point je suis nul. Et en fait, non, évidemment, le grand talent d'Olivier, ça a été de montrer comment les choses se tuilent, comment elles se construisent, comment tout à coup, un langage apparaît, en fait. Et je crois que c'est comme ça que je travaille. Donc maintenant c'est plus dans le jaillissement et dans l'échange avec les danseurs. C'est-à-dire que j'arrive au studio le matin et puis je sais de quoi je veux parler et puis je commence à bouger, à chercher dans mon corps les choses et je cherche devant les danseurs et avec les danseurs. Plutôt qu'arriver, comme je vous disais au début, j'avais mes phrases chorégraphiques tout à fait écrites, prêtes, et je les apprenais comme ça, d'une façon un peu, comme on dit, magistrale. Enfin, comme
un cours magistral.
Voilà, comme un cours magistral, voilà. Donc, en fait, moins on est magistral, et finalement, plus on
plus
touche on à l'essentiel, peut-être.
Et plus on l'est, finalement.
Et peut-être plus on l'est, oui.
Et Angelin Prel-Jocage, si on se pose quelques secondes comme ça, au pavillon noir, à Aix-en-Provence, donc dans ce bâtiment de verre et de béton de Rudy Ricciotti, qui est assez incroyable, qu'on voit aussi un petit peu dans ce film Paulina. C'est quoi justement le rituel? Parce que comment ça démarre cette recherche avec les danseurs? Il y a une condition à laquelle vous mettez particulière. Comment s'attaque le travail?
Y a rien à mystifier là-dedans. Hein.
On sait que par exemple, Valérie Lemercier, elle écrit sous son pied, quoi. Il y a des gens qui font des choses.
Non, mais là, en fait, on a rendez-vous à telle heure pour la répétition, on se retrouve. Et puis, non, mais alors si vous voulez des petits rituels, je peux vous en donner quelques-uns, mais non, évidemment.
Plus c'est bizarre, mieux c'est.
Non, ben là, ça va pas être très bizarre. Ça va être tout simple. C'est qu'à chaque nouvelle création, je réunis les danseurs. Et disons, la première répétition, souvent les répétitions, c'est des périodes de 3 heures. Donc la première répétition consiste en 3 heures de discussion avec souvent, je montre des croquis que j'ai faits ou bien je montre les documents que j'ai pu réunir autour de la création. Et puis je peux lire des extraits de choses qui m'inspirent pour cette création. Je peux distribuer aussi des textes que les danseurs vont garder pendant toute la création. Parfois, je leur demande même d'apprendre certains textes pour qu'ils les sachent, qui peuvent permettre, par exemple, je peux très bien dire après, tu sais, le texte que je t'ai donné, donc tu l'as appris, tu le connais maintenant, eh bien, tu vas faire une danse inspirée de ce texte et inspirée du rythme de ce texte, de la syntaxe de ce texte, du phrasé de ce texte, mais sans qu'on l'entende, évidemment. Donc voilà, donc ça veut dire qu'après, ça donne des matières et des supports de recherche de travail chorégraphique. Et voilà, par exemple, des trucs comme ça.
Par exemple, quel texte on doit apprendre avec vous,
Angelin? Non, mais par exemple, je pense très simplement les mille et une nuits, quand j'ai travaillé sur ces écrits-là, j'ai donné à chacun, comme si je voulais personnaliser chaque danseur, un texte particulier des mille et une nuits, et que chacun a, dont chacun s'est emparé, et qui a accompagné ce danseur tout au long de la création. Alors ça ne veut pas dire qu'il y avait une narration très linéaire liée aux mille et une nuits dans la création, puisque c'était plus une lecture impressionniste des mille et une nuits. C'est un peu comme, vous savez, on dit, je dirais que Monet, quand il peint un paysage, il ne peint pas le paysage, il peint ce qu'il ressent à la vue de ce paysage. Et je dirais que les nuits, le ballet que j'ai fait sur les mille et une nuits, c'est ma sensation à la lecture des mille et une nuits. C'est pas les mille et une nuits racontées en ballet. Donc voilà. Et donc alors c'est pourquoi j'ai donné à chaque danseur quelque chose qui leur permette, comme un véhicule, qui leur permette de voyager personnellement et différemment de leurs collègues dans ces mille et une nuits, et qui a permis aussi de les impliquer d'une façon très spécifique chacun, en fait, et que ce soit pas une espèce de troupe ou de troupeau qui voyagent dans les mille et une nuits, mais des individualités habitées, en fait.
Justement, Angelin Préjocas, si on pense à vos duos, même celui qui est rentré dans la culture populaire, si on pense à ce porté du parc qu'on a retrouvé dans la pub Air France que vous avez réalisé, il faut le préciser au passage, il y a des gens qui ont dit, donc ils se sont librement inspirés du parc. Oui, bah, c'est parce que c'est vous qui êtes derrière la caméra. Et justement, dans le travail des duos, qui est particulier chez vous, notamment aussi dans votre travail de la jeune fille, hein, qui est toujours extrêmement curieuse, assez libérée, on va dire, dans son rapport avec le danseur. Quand vous dites, il faut savoir qui est là, je crois que c'est ça que vous dites à vos danseurs. Comment vous cherchez la construction de ce rapport entre les deux? Comment vous les amenez à ce qu'on peut voir ensuite, nous, au final, sur scène?
Oh la vache. Non, je sais pas. Alors
comment
je,
vous faites
je...
danser le monsieur et la dame ensemble?
Voilà, voilà, très bien, merci. On va réduire les questions.
Non, tout, alors, tout ça, non, c'était mais... de la parade, de toute façon, ça ne servait à rien.
Non, mais c'est compliqué parce que, comme je vous ai dit, il y a toujours un moment où j'oublie que je suis en train de raconter une histoire d'amour ou je ne sais quoi. Après, c'est le spectateur qui fait... C'est comme Marcel Duchamp qui dit, c'est le regardeur qui fait l'œuvre. Bon, partons de là. Après, vous travaillez avec deux danseurs et vous dites, je voudrais travailler sur l'espace qu'il y a entre ces danseurs. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Un espace qui se réduit rapidement entre deux danseurs, ça devient violent, en fait. Un espace qui se réduit doucement, ça évoque quelque chose de beaucoup plus doux et ça provoque un impact moindre entre les corps. Donc c'est tout ce jeu entre l'espace, les corps, qui à un moment, moi, c'est-à-dire je me focalise sur ça. Et après, c'est vous qui lisez tout ça, hein, qui, oh, il s'aime, il se touche, il s'aime beaucoup, lui, il aime mettre sa tête dans son épaule, etc. Et vous trouvez ça joli ou pas, je ne sais pas. Mais moi, en fait, je m'intéresse plus à des expériences physiques, en fait, presque.
À l'espace entre les corps, à nouveau.
L'espace entre les corps.
Mais aussi, qui est là, entre les deux danseurs.
Les points d'équilibre qu'il y a entre les corps, comment on peut porter quelqu'un, non pas avec les bras, par exemple, ce qui est banal, si vous dites à quelqu'un, est-ce que tu peux porter ce garçon? Alors hop, on va le prendre avec les bras. Mais en vérité, on peut porter quelqu'un avec une jambe, on peut porter quelqu'un avec une hanche, on peut porter quelqu'un avec une épaule. Et c'est ça qui est intéressant dans la danse, c'est de créer presque parfois des êtres hybrides, c'est-à-dire c'est un corps qui est composé de deux corps et qui se complètent. Et là, ça nous ramène au banquet de Platon, quand il dit que finalement, on a été tranché en deux à un moment par ce qu'on avait... Je ne sais plus très bien d'ailleurs. Mais on a été tranché en deux et depuis, on cherche de toute éternité l'autre moitié. On cherche la moitié qui nous manque. Et l'amour serait ça, serait cette quête de trouver... l'être manquant, cette partie de soi qu'on a perdue. Et du coup, avec la danse, on peut faire ça. On peut essayer de reconstituer un corps imaginaire qui est une combinaison, une fusion, une, une articulation entre ces deux corps-là qui vont devenir un corps. Et là, ça peut être assez beau aussi, et puis ça peut être émouvant aussi.
Je parlais de réalisation tout à l'heure en parlant de ce porté, de ce duo du parc. Il y a un travail comme ça qui se fait, qui sourd sous votre travail chorégraphique, c'est la réalisation. Vous avez fait des courts-métrages, des films d'art. Je rappelais, vous avez co-réalisé avec Valérie Müller-Paulina. Vous vous approchez le plus près peut-être de ce médium-là. Comment vous l'abordez et comment ça nourrit aussi le reste ?
Le cinéma, c'est intéressant parce que on peut du coup chorégraphier des choses à des échelles différentes. C'est toujours, ça restera toujours pour moi une question d'un corps dans un cadre ou d'une partie du corps dans un cadre. Et ça restera toujours une question, oui, sur le corps. D'ailleurs, je crois que les plus grands cinéastes sont ceux qui interrogent le corps dans un mouvement de caméra ou dans une approche.
Angelin Prel-Jocage, réalisateur, c'est quelqu'un qui est nourri par les chaussons rouges, forcément.
Par exemple, je trouve qu'il y a énormément de danse dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Je pense qu'il y a, énormément de danse dans les films d'Olivia Sayas, par exemple, aussi. Je trouve que, comme je vous disais, c'est pas parce qu'il n'y a pas besoin de musique dans un film et de corps pour qu'on ait l'impression qu'il y a de la danse. En fait, il suffit qu'il y ait des corps et qu'il y ait une prise en compte de ces corps comme un élément. Je veux dire, les corps au cinéma, c'est pas que des gens qui disent des textes. Et parfois, malheureusement, on a ça. Et je crois que les grands cinéastes sont ceux qui, justement, font que ces corps, quand ils ne parlent plus, par exemple, continuent à dire énormément de choses, en fait.
Et Angelin Prel-Jocage, réalisateur, c'est aussi une question qu'on peut reprendre par rapport à la danse. On dit pourquoi vous choisissez la danse, pourquoi vous continuez la danse. Vous nous dites que c'est une réponse à une forme de silence. C'était ce qu'on disait tout à l'heure. La réalisation, pourquoi ça devient un moment important pour vous ? Pourquoi vous avez besoin de le faire ?
Parce que c'est passionnant. Tout simplement, je trouve que dans le cinéma, il y a beaucoup de choses qui rejoignent la danse. Il y a le mouvement, on l'a dit, j'ai évoqué les corps. Alors il y a les mouvements de caméra aussi, voilà. Donc, et puis il y a le rythme. Et le rythme, c'est le montage. Et là aussi, il y a quelque chose qu'on retrouve qui est lié à la composition, au langage et à l'écriture, en fait. Quand Eisenstein a commencé à couper un plan, le jour où il a décidé de couper un plan et d'en ajouter un autre à côté, et qu'il a compris qu'il y avait une résonance qui se créait, on est rentré dans l'harmonie, je dirais, au sens où, en musique, quand on parle d'harmonie, c'est la combinaison des notes entre elles. C'est-à-dire que c'est même comme les mouvements et on dit, est-ce qu'un beau mouvement, ça existe ? Enfin, pour moi, ça n'existe pas. Ce qui est intéressant, c'est l'articulation de deux mouvements et qu'est-ce que ça crée, en fait. C'est comme en musique où on dit, est-ce qu'un fa dièse, c'est beau ? C'est pas beau, un fa dièse. Enfin, pas plus qu'un si bémol. On est d'accord ?
Tout à fait.
En revanche, ce qui est intéressant, et dans une composition, c'est comment on met en résonance un fa dièse et un si bémol. Et donc... pour la danse, c'est pareil. Et au cinéma aussi, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est comment on met un plan et qu'est-ce qu'on va mettre après et quelle force va prendre ce plan. Et évidemment, s'il est précédé par autre chose, ça sera différent, quoi. Donc, c'est des choix permanents, évidemment, et c'est compliqué.
Mais vous n'y renoncez pas pour autant et justement.
Non, mais c'est passionnant, hein. Mais oui. Vraiment, voilà, c'est ça. C'est ça la réponse simple que je peux faire à votre question. C'est pourquoi je le fais, parce que ça me passionne et parce que c'est passionnant surtout.
Si la danse est pas perçue a priori comme un art populaire, justement, puisqu'on était au cinéma, hein, contrairement au cinéma, pour vous, oui, c'est un art populaire. Vous l'abordez comme ça, Angelin Prel-Jocage. Vous nous en avez parlé un petit peu aussi avec cette articulation entre la radicalité et des choses plus exposées, mais dans lesquelles on retrouve tout votre travail laboratoire. Justement, vous citez aussi Bacon en disant qu'il aime s'adresser au système nerveux plus qu'à la raison, le peintre oui. Bacon. Donc vous, comment est-ce que vous en faites un art populaire ? Est-ce que c'est une préoccupation qui vous anime ?
Moi, je crois que on n'a pas besoin d'en faire un art populaire parce que, par essence, je dirais que c'est un art populaire. Je crois qu'il y a quelque chose de... Il y a une sorte d'atavisme avec les corps qui résonne à chaque fois. Je pense que les gens croient ne pas aimer la danse, mais c'est parce qu'ils n'y sont pas confrontés, souvent. Si on dit à quelqu'un, tu aimes la danse ? Oh, non, la danse, ça ne m'intéresse pas. Mais en fait, souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas été questionnés par la danse. Ils n'ont pas été interrogés, ils n'ont pas été pris à partie, vraiment. En revanche, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a une sorte de vibration des corps dans les salles de spectacle de danse qui est très particulière. C'est qu'on a l'impression que les gens qui sont dans la salle, qui regardent, ayant le même instrument que celui qui est sur scène, confusément ressentent ce que vit l'interprète. Alors que, je sais pas, on peut aimer le violon, mais on n'est pas tous violonistes, on n'a pas tous un violon. Et alors que là, il y a quelque chose... Quand on voit, on sait ce que c'est se lever, on sait ce que c'est se pencher, on comprend quelque chose. Il y a quelque chose de mécanique, de charnel, de musculaire qui se passe dans le corps, qu'on reconnaît en fait. Il y a une reconnaissance, il y a quelque chose qui s'inscrit, il y a une filiation qui, pour moi, me donne l'idée que c'est par essence un art populaire.
Et par rapport à votre public, comment vous le percevez en jeu d'après le local justement?
Je comprends pas cette question.
Est-ce que vous imaginez un regardeur, une regardeuse? Est-ce qu'il y a des gens que vous essayez de ramener vers vous? Est-ce que vous avez cette idée du public et de comment vous vous adressez à lui? Ou est-ce que tout cela découle?
Non, mon public, c'est moi d'abord. Excusez-moi. C'est-à-dire, non, mais je suis le premier regardeur. Alors, évidemment, il faut que quelque chose se passe quand je vois. Alors, je fais tout. Je mets tout en branle pour que, quand je regarde, quelque chose me... Comment dire? J'ai envie de le dire en anglais. To hang me. Enfin, me soulève. Voilà, en fait. Mais je pense qu'en français, il doit y avoir un truc comme ça.
Hang, c'est accroché.
Oui, non, mais me transporte. Voilà, j'ai besoin de transport, en fait, c'est ça. Quand je regarde ce que je fais, ou même quand je regarde d'autres spectacles, j'ai besoin d'être transporté. Ouais, j'ai besoin d'être mis en mouvement par ce que je vois, en fait. Et donc voilà. Alors, tant que je ne l'obtiens pas, j'y travaille, en fait. Et voilà. Et après, ce que j'espère... Alors là, par contre, je suis obligé de reconnaître... que j'espère vraiment profondément qu'un maximum de gens vont rentrer dans ce même transport qui m'aura atteint, si vous voulez. Ça, je ne peux pas dire le contraire.
Et puisqu'on est justement dans cette approche de la salle, de l'art qui est la danse, avec aussi peut-être sa mission, c'est-à-dire que vous parliez tout à l'heure de ses parents albanais, vous naissez juste après leur exil. On voit dans votre travail régulièrement la présence de la guerre, l'écho du monde contemporain, de la violence. Si on se replace dans un spectacle comme Haine, qui était la négation et en même temps la haine, H-A-I-N-E, récemment le retour à Beratam aussi que vous avez présenté à Avignon, c'est un questionnement. Donc pour vous, est-ce que la danse a la mission aussi, ou en tout cas, est-ce que vous en fixez une au regard de l'histoire?
Oui, je trouve que la violence est un marqueur très fort en fait de l'histoire des corps humains et enfin des corps en général. Et je trouve que un art dont le médium principal est le corps, qui occulterait la violence du monde, serait indécent. Vraiment, je trouve ça. Parce que parfois j'ai eu ça comme reproche, c'est-à-dire on m'a dit oui, il y a tellement de violence parfois dans ta danse, etc. Et je suis très troublé par ce genre d'assertion parce que je trouve que ça fait partie réellement de l'histoire de l'humanité. La violence est quelque chose. S'il y a bien une chose qui a été constante depuis le début, depuis l'aube des temps, c'est bien la violence faite au corps. Et en plus, la violence, souvent, se joue sur les corps. Elle ne se joue pas sur les poireaux. Enfin, vu que moi, je travaille avec les corps, c'est évident qu'à un moment, l'ombre ou la violence elle-même va traverser ces corps.
Si on pense à mort sans sépulture... Mais pas que, hein,
pas que.
Oui, il y a cette mission quand même de ne pas se glisser hors du monde sans y avoir fait quelque chose, Angelin Prejlocage, c'est une question que vous posez de ce que vous laissez et de ce que vous pouvez apporter au monde, à la main du monde.
Oh la vache, apporter quelque chose au monde, c'est...
Non, mais ça peut être une nécessité pour pas être juste...
Bah, c'est plutôt l'idée d'être... d'un témoignage, quoi. Enfin, ou de, d'être... comment je vois les choses, comment je les ressens... Et je pense que c'est intéressant de voir le monde par le prisme de la danse, en fait. C'est vraiment même passionnant, en fait. C'est vachement bien, j'adore ça.
Qu'est-ce que vous y voyez ? Puisque le monde est...
Non,
chez
mais
vous, voilà,
c'est-à-dire
la danse,
c'est
un écho du monde.
En disant ça, je redescends à un niveau très naïf du langage, c'est-à-dire de me dire, c'est vraiment incroyable de passer sa vie à essayer de donner une version du monde par la danse, quoi. Voilà. Et c'est ce que je fais et c'est ce qui me réjouit chaque matin, quoi. C'est épatant.
Et comment, justement, vous le voyez en ce moment, ce monde ? Peut-être que là, ça nous amène à vos questionnements sur une prochaine pièce chorégraphique, mais qu'est-ce qui vous attrape ? Sur quoi vous vous arrêtez ? Qu'est-ce que vous avez envie de traduire en danse, Angelin Prejlocage ?
En ce moment, là ?
En ce moment.
Tout de suite.
En ce moment, ou peut-être rétrospectivement ? Ce sur quoi vous revenez ?
Non, j'essaye de... Oh là là. Il faudrait que je vous parle de mon prochain projet, mais comme je n'ai pas le droit d'en parler, c'est embêtant.
Ah oui, c'est embêtant. Vous pouvez pas peut-être des noms de code, des choses simples. Les carottes sont cuites, je ne sais pas.
Il n'y a plus de tabac dans la tabatière.
Voilà.
Voilà. Si, il y a encore du tabac dans la tabatière. Et justement, c'est bien. C'est bien.
Je pense que l'information est passée sur les ondes libres de France Culture. Peut-être un dernier mot, alors si vous ne pouvez pas nous en dire plus sur ce projet, puisqu'on est sur ce que peut la danse. On pense au discours de Patrick Boucheron, Collège de France, historien. Que peut l'histoire ? Que peut la danse, peut-être ?
Voilà, que peut le corps ? On revient à Spinoza.
Et que peut le corps, oui. Peut-être mettre du tabac dans la tabatière ?
Voilà.
Quand vous programmez aussi des choses, quand vous êtes par exemple sensible à une pièce comme Beat de Maggie Marin, voilà, est-ce qu'il y a aussi dans ce que vous choisissez des signaux, des messages que vous envoyez sur ce qui peut apporter une lecture du monde plus peut-être plus positive, en même temps tout à fait sincère sur les enjeux qui sont ceux d'aujourd'hui, qui sont, comme vous dites, pas n'importe lesquels, quoi. Ce serait indécent de ne pas en parler. Et est-ce que pour vous, voilà, il y a aussi des choses qui sont nécessaires à voir au-delà de ce que vous produisez, de vos envies, hein, j'ai l'impression.
Non, mais en fait, ce que je voudrais, c'est vraiment essayer de d'ouvrir la perception du monde qu'on peut avoir, donc grâce au corps et grâce à la danse. Donc d'une certaine manière, je pourrais dire que plus les gens aimeront la danse, et plus on a de chances de vivre en paix, presque. Alors je me dis, allez, continue à travailler, peut-être tu pourras, calmer quelqu'un, ou lui montrer que l'autre est pas forcément un ennemi ou des choses comme ça. Et même si à l'intérieur de ce que je montre, parfois je montre ça, je montre que les corps sont en état d'ennemitude. Non. Mais cette interrogation et montrer ça par la danse parfois provoque l'effet inverse, c'est-à-dire on se dit ben non, finalement l'autre est peut-être désirable ou respectable, tout simplement.
C'est la danse comme un questionnement sur le rapport à l'autre.
Ah ben oui, parce que vraiment je suis content parce que je crois que
pour une fois vous me comprenez, en plus ça me fait bien plaisir.
Non, mais ce que je
crois, là j'ai l'impression de parler hindou.
Je crois que c'est vraiment la relation qui compte, c'est-à-dire que même dans l'art, c'est pas l'œuvre qui compte, c'est la relation entre celui qui regarde et l'œuvre. Et ce que j'appelle art, c'est ce moment-là. C'est pas le tableau. Ce que je veux dire par là, c'est que vous prenez la Joconde dans le musée la nuit, quand il y a personne devant, elle n'existe pas. Enfin, vous savez, c'est comme quand on dit en cosmologie, on dit si quelqu'un n'est pas là pour penser le monde, alors peut-être le monde n'existe pas aussi. C'est-à-dire le fait de le penser déjà, peut-être le crée, ou le fait vivre, ou le fait exister. Alors là, c'est pareil, on est... La Joconde, la nuit dans le musée n'existe pas. Et au matin, au premier visiteur qui vient, il regarde la Joconde. Et là, quelque chose se passe comme une prise, comme si le regardeur fait exister la Joconde. Et il se passe ce moment-là qui est ce lien entre le regard et l'œuvre. Et c'est ça, pour moi, le moment artistique. Et c'est ça, l'art. Et donc, je crois que l'art, c'est ce qui va nous relier, presque comme une, au sens où le mot religion, finalement, veut dire, vient du latin religere, qui veut dire relier. Eh bien, je dirais que s'il y a une chose qui peut nous relier, peut-être, sans les méfaits collatéraux des religions, c'est peut-être l'art, en fait. Merci à vous d'être venu à 10h du matin, parce que moi, franchement, j'en ai bavé.
C'était la masterclass d'Angelin Prejlocage avec Mathilde Serrel. Attaché de production, Mathieu Maroudin. Coordination, Arnaud Laporte. Réalisation, Olivier Guérin.